Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Bonjour, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et merci de nous rester fidèles et de continuer à nous encourager. Nous en avons grandement besoin. Kamel Shekat, salam alaikum.
Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh.
Pour rappel, alors, nous sommes toujours dans le récit de la sirah du prophète de l'islam, Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis auditeurs, amis de au cœur de l'islam, mais avec Kamel Shekat, nous avons décidé de réduire la vitesse et d'insister donc sur certaines phases de la vie du prophète sallallahu alayhi wasallam qui nous touchent, nous aussi, et qui ne font pas partie que de la géographie de l'islam. Bien sûr, il n'est pas question de faire du Ibn Hisham ou du Ibn Ishar, Kamel Shekat.
Absolument.
Alors, pourquoi faut-il en parler et souvent le rappeler son comportement, ses bonnes manières, pour toutes les circonstances d'ailleurs. Il est l'auteur d'un code des usages quotidiens, code de politesse, d'habillement, de valeurs, adab ou akhlaq. Il a prescrit des règles de savoir-vivre avec enfants, adultes, femmes, bêtes, cieux, djinns et tout ce qui s'ensuit. Le prophète est bonté, il est une grâce, une miséricorde, lil alamin. Son modèle doit être étudié, décortiqué, passé sous la loupe, mais surtout copié et reproduit. Alors Kamel Shekat, Dieu subhanahu nous dit qu'il est uswatun hasana. Dans les derniers versets de sourate Tawba, on peut lire Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufun rahim. Vous allez nous faire la traduction, Kamel Shekat. Alors, est-ce que c'est un texte qui s'adresse à nous, êtres du 21e siècle, ou bien ça ne concerne que les premiers musulmans? Je vous rajoute un autre verset, Kamel Shekat, c'est le verset 7 de Sourate Al-Hujurat, un verset d'ailleurs qui m'a toujours intrigué, qui dit « Wa'alamu anna fikum rasulallah ». Alors franchement, Cheikh Al-Alawi, qui n'est plus à présenter, et même des contemporains, l'exemple d'un psychanalyste français, Michel Hirt, qui vient de signer d'ailleurs son deuxième ouvrage sur l'islam, qui est « Le voyageur nocturne », nous exhorte à agir avec le Coran comme s'il nous a été révélé à vous, à moi et à tout le monde. Alors, wa'lamu anna fikum rasulullah Kamel Shekat. Est-ce que le prophète est toujours parmi nous?
Non, il
comment
est clair
comprendre
que...
ces versets, tous ces versets Kamel Shekat.
Ce verset s'adressait à la communauté, aux compagnons même du prophète.
Donc, nous ne sommes plus concernés par ce verset.
Non, nous ne sommes pas concernés par la lettre même du verset, mais par l'esprit du verset. Nous le sommes toujours et nous le serons jusqu'à la fin des temps. Le message ou l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est toujours en vigueur, qu'on le veuille ou non.
Wa'alamu anna fikum rasulullah,
oui.
Qu'il est parmi vous.
Non, mais ça s'adressait à sa communauté. C'est conjoncturel.
Mais ça
n'ôte pas justement au Coran ou bien au message, au dernier message, cette qualité de pouvoir faire l'affaire, entre guillemets, quel que soit le lieu et le temps. L'enseignement de Mohammed est toujours là. Il est toujours en vigueur.
Comment reproduire et copier son modèle Kamel Shekat à l'ère de l'image, à l'ère de la vitesse, à l'heure où tout est rapide et fast?
Justement, faut-il procéder dans cette logique, c'est-à-dire essayer de reproduire son image ou de le copier, l'imiter à l'ère de la lumière et de la vitesse, ou bien faut-il assujettir cette lumière et cette vitesse à son comportement ou bien aux normes qui nous a transmises?
Comment réarranger notre calendrier, Kamel Shekat?
Il n'y a pas lieu de le réarranger. Vous savez, quand vous étudiez bien l'Occident à l'heure actuelle,
en perte
tout
de
indique,
sens.
Tout, bien sûr, il y a plus que ça. Les gens sont dans le désarroi, ils sont dans une quête perpétuelle de tranquillité, de stabilité.
Chiffres du suicide sont effarants.
Absolument. Et c'est pour cela que vous avez beaucoup, beaucoup de monde, depuis déjà au moins 3 décennies, qui s'oriente vers tout ce qui est méditation, bouddhisme, etc. Parce que le bouddhisme et la religion, le taoïsme, c'est les religions de l'Inde qui découlent du védisme, qui donnent cette impression que de pouvoir résoudre tous les problèmes d'ordre mystique, d'ordre spirituel. C'est pour ça qu'il y a un engouement pour ces religions.
D'ailleurs, excusez-moi, Kamel Shekat, les plus grands convertis à l'islam, donc les contemporains, sont tous passés, je parle des occidentaux, sont pour la plupart tous passés par ces traditions.
Oui, absolument. Ils sont allés vers l'Asie
mineure. Ça leur a ouvert la voie.
Pour revenir un peu vers l'Orient. C'est un cheminement parce que c'est une quête. Et cette quête a été... Ces gens-là, on peut supposer qu'ils étaient sincères dans cette quête de Dieu ou dans cette quête de tranquillité, de paix et d'harmonie qu'ils recherchaient, tout simplement. Justement, cette quête en elle-même dénote un malaise dans la société occidentale. Et à l'heure actuelle, nous sommes obligés de dire dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que le monde a tendance à s'occidentaliser. Mmh. Et dans cette démarche, le monde ou les sociétés, toutes les sociétés du monde sont en train de récolter tous les problèmes inhérent
par ricochet, tout ce qui se vit en Occident nous frappe de plein fouet.
Et nous le subissons beaucoup plus dans la mesure où nos sociétés n'ont pas cette aisance en termes de vie, de services, etc. qui
prévalent. L'aspect rationnel, Kamal Cheikh, qui est absent dans nos sociétés.
Oui, absolument, absolument. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer ? Est-ce les concepts de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc par extension les concepts coraniques ou cette vision coranique du monde qu'il faut changer, qu'il nous faille changer, ou est-ce à nous d'adapter un peu nos modes de vie à ce qui est souhaité humainement parlant ?
D'abord, c'est-à-dire peut-être être prendre conscience de notre vécu, de notre situation.
Absolument.
La prise de conscience est
normalement,
importante.
Normalement. C'est-à-dire que là, sans même parler de religion, nous sommes dans l'existentiel. Et il y a un travail à faire, que nous voulions ou non.
Philosophique pour certains.
Oui.
Alors, Kamal Cheikh, dans les différentes stations, phases ou escales de la vie du prophète Mohammed al-Islam, nous pouvons observer des événements qui relèvent de l'histoire de l'islam sur un plan dogmatique. Mais en parallèle, il y a eu des épisodes qui relevaient ou qui relèvent directement du troisième degré, maqam al-ihsan, donc de l'excellence. Kamal Cheikh, il faudra peut-être insister et le rappeler surtout que le premier acte fondateur de l'islam a été la révélation faite à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Mais il y a aussi en parallèle un autre acte fondateur sur un plan spirituel qui est l'Isra ou le Mi'raj.
Oui. Vous avez utilisé un terme, vous avez parlé d'acte fondateur. Dans le cheminement d'un prophète, ou bien dans l'enseignement même du prophète, alayhi salatu wassalam, et de tous les prophètes qui l'ont précédé, la révélation est un épisode parmi tant d'autres qui va jalonner leur vie et avoir un impact sur la vie de ceux qui leur sont proches, des apôtres, par exemple pour Jésus, des compagnons pour notre messager, et de ceux qui ont suivi dès la première heure les prophètes qui sont venus avant, Ibrahim, Noé, etc. À la limite, quand vous parlez du Coran, de la révélation du Coran en tant qu'acte fondateur, est-ce qu'on peut considérer le voyage nocturne comme un acte fondateur ? Ça peut prendre peut-être beaucoup plus d'importance. Mm-hmm. Sauf que, vous savez, quand vous étudiez bien les récits, la vie, les biographies, la vie de chacun des prophètes, dont le Coran nous a parlé ou dont nous avons eu vent par le biais de la tradition prophétique, même les êtres vertueux, comme Al-Khadir alayhi salam, Jeudi alayhi salam par extension, ou bien le Luqman, le Hakim, Chaque parole, chaque propos, chaque enseignement devient un acte fondateur pour qui prend réellement en considération tout cela. Nous sommes tellement éloignés, entre guillemets, des choses de la religion que peut-être le fait le plus important peut nous sembler banal. Je vais donner un exemple que j'ai déjà donné. Vous prenez quelqu'un comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est venu bien après le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, au moins près de 2 siècles pratiquement, eh bien, ces gens-là faisaient tout pour se rapprocher autant que faire se peut de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes de comportement, en termes de piété, etc. Et l'imam Ahmed suivait pas à pas Bishr al-Hafi, qui était une sorte de... C'était un buhloul, c'est-à-dire une sorte d'aliéné en quelque sorte mental, du moins en apparence. C'était un réceptacle de sagesse. Mm-hmm. Et les élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui étaient, on va dire, un peu rigoristes et qui étaient très, très techniques, entre parenthèses, concernant les choses de la religion, le blâmaient, disant « Comment quelqu'un comme toi peut-il suivre une sorte de fou de cette espèce ?» Il leur disait « Je suis un connaisseur de la religion. Mm-hmm. Lui est un connaisseur de Dieu. Wa arifun billah. » Vous imaginez donc ces gens-là qui profitaient de n'importe quoi pour essayer de se rapprocher un tant soit peu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour faire, essayer de faire vibrer au mieux cette corde sensible qui a un rapport intime avec la foi, avec la piété. Avec... L'imam Ahmed disait, une fois, l'imam Ahmed a dit « Laytana yawma sharibna zamzam sa'alna Allah al-ikhlas » On dit « zamzam wa ma shuriba lah » ou bien « li ma shuriba lah » Ça veut dire que quand vous buvez de l'eau de zamzam, vous êtes censé faire une prière qui est normalement exaucée. Je présume que quand l'imam Ahmed, alors qu'il était jeune, a bu de l'eau de zamzam pour la première fois, il a dû demander à Dieu de lui donner de la science. Sa'alahu al-ilm. Ce qu'il a regretté par la suite, il a dit « Laytana sa'alna Allah al-ikhlas yawma sharibna zamzam ». Pourquoi ? Parce que sa science l'a mené à un point où il a bien compris que ce qui comptait le plus n'était pas ce qui était visible, mais ce qui ne l'était pas. Donc à partir de là, chaque station de cette vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qui sait en profiter, devient un acte fondateur de foi. Cela dit, le voyage nocturne prend une dimension qui dépasse de loin le cadre géographique de l'islam de l'époque, c'est-à-dire de l'Arabie. Parce que dans ce voyage nocturne, déjà, il est intervenu à un moment crucial et il va donner une certaine dimension universelle à l'islam.
Très bien. Alors, Kamal Chakat, si vous voulez, on va faire quelques brefs retours en arrière. Vous avez cité Bishr al-Hafi qui a été un grand soufi. Tout le monde parle de sa connexion, si j'ose dire, à Dieu Subhanahu. Vous avez cité un terme, c'est l'intimité avec le Créateur. Oui. Bishr al-Hafi qui a eu un acte louable et qui lui a ouvert toutes les voies vers l'illumination peut-être, le fait, certains parlent de fait, c'est qu'il a trouvé un jour sur un petit bout de parchemin par terre inscrit le nom d'Allah. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a soulevé ce bout de parchemin de terre, les nettoyer, parfumer et les mettre sur un piédestal. C'était ça son grand acte louable.
Attention, là, permettez-moi de vous couper la parole. Justement, la différence entre cet islam de bonté et l'islam technique. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un islam de paraître, un islam de faites ceci, faites cela, habillez-vous de la sorte, etc. C'est vrai, peut-être que cet aspect de la vie a son importance, mais il ne peut pas prendre le dessus. À l'époque, je me souviens, quand on trouvait un bout de pain, moi je le fais toujours, le bout de pain, on le soulève, on l'embrasse et la pose au front et on le surélève. En tout cas, na'amat Rabbi, on ne la laisse pas par terre. Bien sûr. Comme ça, par respect pour une multitude de choses. À l'heure actuelle, si vous faites ça, un super musulman, entre guillemets, pourrait vous traiter de mubtadi'a, d'innovatrice. Alors que vous êtes dans un acte qui est fort louable, tout simplement, qui est souhaité humainement parlant. Donc vous voyez, c'est ce qu'a fait Bishr al-Hafi. Parce que je vous dis cela parce qu'une fois, il y avait en tout cas Ajam avec nous, des gens du Pakistan. L'un d'eux a pris le Coran, en le soulevant, il l'a embrassé, il l'a posé sur le front, et l'un de nous a dit « Ouais, ma washad al-bida'a hadi ». Je lui ai dit « Mais écoute, c'est pas une bida'a dans la mesure où ce monsieur montre justement de manière spontanée son respect pour le livre de Dieu. Tu n'es pas à la place de Dieu pour pouvoir juger s'il s'agit d'une innovation ou pas. C'est ça. Donc, ce qu'a fait Bishr al-Hafi pourrait paraître anodin pour un musulman lambda ou pour quelqu'un qui a un cœur dur comme une pierre, mais il n'en demeure pas moins qu'il a tout simplement honoré Dieu en faisant cela.
C'est comme ça qu'il a eu son illumination.
C'est peut-être pour ça, oui. En termes, les gestes que nous faisons au quotidien, quand nous parlons de péché, quand nous parlons de manquement vis-à-vis de Dieu, les anciens disaient « La kabirata ma'a istighfar, wa la saghirata ma'a israr ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché capital quand on est enclin au repentir.
Alors Kamal Chakat, le deuxième terme que vous avez cité, qui est très important aussi, c'est celui de l'intimité.
Oui.
Alors quelle est la finalité de l'islam ? Les soufis parlent de cette fameuse, de cette ultime rencontre avec Dieu, qui a été aussi la première rencontre quand oui. nous étions que dans poussière, justement, oui. cité d'ailleurs dans la sourate Al-A'raf.
Oui.
Pourquoi je vous ai dit que l'Isra ou le Mi'raj était un acte fondateur sur un plan spirituel ? Parce que les différents grades ou l'échelle qu'a suivi Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accompagné de Sidna Jibril, c'est pratiquement les grades que mènent les soufis en matière de cheminement.
Oui.
C'est toujours cette quête du divin, ce cheminement vers le Dieu Tout-Puissant pour une meilleure proximité, plus grande intimité. Je voudrais savoir, Kamal Chekat, lequel de ces deux événements est plus important, l'Isra ou le Mi'raj? L'Isra, qui est donc un voyage nocturne, on peut dire horizontal, alors que...
L'autre est vertical.
Est vertical. Lequel est plus important?
Je pense que si Dieu les a rassemblés, c'est que l'importance de l'un repose sur l'importance de l'autre. Dans les deux, il est fait mention de rencontres avec les autres prophètes. Dans les deux, nous allons revenir à un pacte primordial où Dieu nous a parlé justement des prophètes, leur disant si j'envoyais un messager, est-ce que vous y croyeriez, est-ce que vous adhériez à son message, etc. Et tous les messagers ont dit oui. Là, nous parlons d'une dimension dans laquelle se trouvaient peut-être nos âmes. Et à partir de là, ce fameux Isra et Mi'raj vient justement solder tout cela. Alors, l'Isra, c'est le voyage nocturne. Asra Fulan, ça veut dire qu'il a voyagé de nuit. Ensuite, le Mi'raj, c'est l'ascension. Donc, l'Isra, ce voyage nocturne a eu lieu de la Mecque vers Jérusalem. Là déjà, il va y avoir, au dôme du rocher, il va y avoir une première rencontre avec les messagers de Dieu, avec certains anges rapprochés, parce que certains hadiths parlent même de Malik, qui est l'ange de l'enfer, et c'est normalement Jibril qui dit « Hada Malikun fasallim alayh ». Et le prophète dans ce hadith a dit Fabadarani bissalam, si je ne m'abuse. C'est donc Malik qui a adressé le salut en premier. Et ensuite, il va faire cette prière en congrégation, Salat Jama'a, en étant le guide de tous les messagers qu'il avait précédés.
Kamal Chekat, alors il y a énormément de symbolique dans ces deux voyages, l'Isra ou le Mi'raj. Commençons d'abord par le début.
Oui.
Sidna Jibril alayhi salam est venu demander donc annoncer à Sidna Mohammed qu'ils vont faire un voyage ensemble. Il lui demande d'abord de faire des circumambulations autour de la Kaaba et de faire la prière pour entreprendre le voyage.
Vous ne pourrez jamais lire ou avoir une idée de ce qui s'est passé si vous ne faites pas des recoupements entre une multitude de hadiths. Il y a un hadith dit Hadith al-Isra wal Mi'raj qui raconte tout cela, mais vous avez aussi des recoupements que vous allez placer de manière chronologique.
Il y a énormément de littérature justement. D'ailleurs, Soyoté relève 45 ou 47 histoires justement sur le Mi'raj.
Il y a énormément, il y a beaucoup de, attention à cela, va se mêler beaucoup d'israélisme beaucoup d'israélites.
Masihiyat aussi, Kamal Chekat.
Oui, on appelle l'israéliyat parce que les israélites ont été les premiers à inventer ce type d'écrit, à les incorporer dans les écritures saintes, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça comme un terme générique en quelque sorte. Nous n'allons peut-être pas pouvoir parler de cet épisode dans son intégralité en citant toutes les subtilités, mais je voudrais juste insister sur une chose. Nous avons déjà parlé de Miguel Asín y Palacios, qui est un prêtre espagnol. On dit de lui que c'était un islamologue, bien que ce terme n'a pas de sens. C'était un prêtre catholique du siècle dernier. Il a voué pratiquement toute sa vie à l'étude de la Divina Commedia de Dante.
Dante et l'islam.
Oui, il a mis en évidence de troublantes ressemblances qui existent entre la Divina Commedia et les différents récits de la tradition islamique de l'Isra ou le Mi'raj.
Son ouvrage sorti en 1927, justement.
Oui. Et il a fait l'objet de beaucoup, beaucoup d'études de la part des plus grands orientalistes de son époque.
Alors, un autre détail, Kamal Chekat, je ne sais pas si vous l'avez ou pas, dans cette même étude de Miguel Asín Palacios, il relève que la Divine Comédie de Dante a été justement un plagiat d'une œuvre de Abul Ala al-Ma'arri.
Oui, il y a cela. Mais sauf que lui n'a jamais pu prouver de manière, on va dire, directe tout cela.
Mais il a établi des ressources.
Oui, il a établi. Hein. Mais il y a un Belge qui s'appelle Luc de Hoche. Le livre est très récent, il est sorti dans les années 90. Il s'intitule « La transe et ses atours ».
Comment ça s'écrit, Luc de Hoche?
L-U-C, donc oui. Luc, D-E, H-E-U-S-C-H. C'est un Belge. Qu'est-ce qu'il dit dans son livre « La transe et ses atours » Il dit « Miguel Asín Palacios, ou bien I Palacios, publia le résultat de ses premières recherches en 1919. Il ne parvint pas plus que ses successeurs à déterminer comment Dante aurait pu avoir connaissance des écrits mystiques musulmans. Il fallut attendre 1949 pour que des chercheurs jettent de nouvelles lueurs sur ce problème historique. Ils établirent qu'à coup sûr, au IXe siècle, sous l'impulsion du roi Alphonse X, 1221-1284, furent établis en latin et en castillan, puis en ancien français, des traductions d'un texte arabe décrivant le périple qui conduisit Mahomet, j'utilise ici les propos de Deutsch, vers Dieu le long d'une échelle mystique. Les hypothèses d'Assin Palacios se trouvèrent ainsi renforcées.
D'ailleurs, il a servi de base au livre de l'échelle de Mahomet.
C'est ça. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est que si chacun de nous prenait le temps de lire en y mettant le cœur, ce fameux épisode de l'ascension et, de la, et du voyage nocturne, ça pourrait vraiment avoir un impact très très bénéfique sur la vie de tous les jours. Attention, je dis cela pourquoi ? Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, tout récemment, il m'arrive, ce que je reçois sur Facebook, je tiens aussi à expliquer à pas mal de personnes qu'il est impossible de répondre quand vous recevez 200 à 300 messages par jour. Et puis, vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non, ou par yadjouz ou layadjouz comme le font certains. Et à la limite, le lendemain, vous ne savez plus où vous étiez la veille. Et c'est comme ça que ça part. C'est pour ça que je m'en excuse auprès de certains. Mais il y a certaines personnes qui semblent faire partie des coranistes, le Qur'aniyoun. Certains vous diront, oui, voilà, donc maintenant les six jours de Shawwal, Yamadou Sabrin, est-ce que c'est cité dans le Coran ? À l'un d'eux, j'ai écrit, oui, mais vous savez, même le nombre de prières que nous devons faire au quotidien et le nombre de génuflexions, Adad Raka'at, n'est pas cité dans le Coran. Donc, que faut-il faire ? Et vous savez, maintenant, vous avez des gens qui vont lire le récit, ce fameux récit de l'Isra ou le Mi'raj, sous le prisme d'un certain, par exemple, Shahrour ou Adnan Ibrahim, qui sont spécialistes dans la controverse et la polémique. Il y a des gens qui ne se réalisent que dans ça. Donc maintenant, si vous lisez de cette manière-là, vous allez passer à côté de l'essentiel et vous allez vous diluer en quelque sorte, vous vider de votre substance dans des questionnements, des interrogations qui n'ont pas de sens.
Controverse après controverse.
Oui, controverse après controverse. Il est clair que nous avons dans la tradition prophétique des hadiths qui sont clairement établis comme authentiques et d'autres qui ne le sont pas. Allez vers ce qui est authentique. Certains, quand vous leur dites « allez vers ce qui est authentique », ils vous disent « et qui est-ce qui a décrété que ces hadiths étaient authentiques alors que les autres ne l'étaient pas ?» Tout simplement des spécialistes qui connaissent la traduction mieux que vous et que ceux qui vous ont enseigné. Donc c'est ça. Comment aborder tout cela ? Je pars du principe parce que là, il y a des. Vous savez que nous avons des savants confirmés de la première heure qui ont dit que finalement l'Isra ou le Mi'raj, c'est une expérience qui a été vécue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans même qu'il n'ait eu à se déplacer.
Que dit le texte, Kamashukat ? Et justement, le il texte, est fait allusion dans la sourate l'Isra.
Bi'asra bi'abdihi laylan. Oui, ça veut dire qu'il y a eu. Mais attendez. Nous avons un hadith authentique qui dit que le prophète parle et dit « Quand je suis revenu, ma place était encore chaude. » Ça veut dire que...
Sinon, il n'aurait pas eu besoin de monture, Kamashikat.
Oui, mais attendez. Certains vous diront « Oui, cette monture, il s'est tout simplement vu sur une monture. » Mais maintenant, si nous parlons d'un voyage qui a traversé plusieurs dimensions, où la notion de temps et de vitesse ne sont pas celles que nous connaissons dans la vie d'ici-bas, ça n'exclut pas un voyage physique. Vous comprenez, cette divergence au sein même de la communauté théologienne musulmane sur le voyage en lui-même, était-il virtuel ou physique, ne pose pas de problème dans la mesure où vous restez plongé ou focalisé sur l'enseignement qu'il faille tirer de ce voyage. C'est ça qui est important. Beaucoup de musulmans ne semblent pas avoir compris tout cela.
Sur les stations du voyage horizontal, qui est l'Isra, n'est-ce pas, le voyage nocturne sur sa bête. Oui. Alors, après sa prière, après la prière de Sidna Mohammed, près du Kub, la circumambulation, il monte au ciel.
Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, et
on
là,
peut
nous,
lire,
nous basons, on... nous nous basons sur le Wallafdouli al-Bukhari, ça veut dire ce sont les propos de al-Bukhari. Il est dit, Layla Tausiriya bihi, Beynama ana fil hatim, Warubbama kala fil hijr. Donc là, déjà, il cite de place.
Donc au sein de la Kaaba.
Aux
abords de la Kaaba.
De la Kaaba. Nous sommes dans l'enceinte même de la maison sacrée, mm-hmm. Attention.
Dans le périmètre sacré.
Oui, nous sommes à l'intérieur même. Dans une autre version, dans un autre hadith, il nous dit, il était chez lui. Et là, il y a le...
Chez sa cousine, la sœur de...
Il y a son plafond qui
Omuhan, je crois.
Je n'ai pas ça en mémoire, mais il y a une autre version où il nous rapporte qu'il était chez lui. Mm-hmm. Il était chez lui et il dit « Furija saqfu bayti ». Donc, la toiture de ma maison s'est ouverte.
C'est fendu.
Et dans une autre... c'est fendu en deux. Et bon, donc, le ciel s'est dévoilé. Dans une autre version, Layla Tausriyabi min Masjid al-Kaaba, fanazal Jibril, fafaraj sadri. Ça veut dire que là, il y a eu aussi une autre, parce que quand on parle de shaq al-sadr, nous savons très bien dans
on
la
se
tradition.
On se rappelle de celle qu'il a eue quand il était enfant.
Quand il était chez Halima Saadia, à la tribu de Bani Saad. Il y a eu, mais la tradition nous parle de au moins trois stations où cette opération s'est répétée. Parmi elles, justement, au moment où il s'apprêtait à partir pour ce voyage nocturne. Ça veut dire qu'il a été...
Pourquoi ce moment précis, Kamal Chakat?
Il a dû... Comment j'interprète cela et comment beaucoup de savants l'interprètent-ils? Apparemment, Dieu voulait encore le décharger des derniers résidus de ce qui est mauvais dans une âme humaine pour le prédisposer à ce type de voyage. Parce que nous sommes en droit de supposer que la dimension dans laquelle il allait se retrouver est une dimension d'une pureté telle qu'elle n'admet peut-être pas un millionième de ce qui est le plus petit dans la de 50 millions de fois plus petit que la mesure de Planck de mauvais dans cette dimension. C'est une dimension spéciale.
Il allait à la rencontre de son Seigneur.
Quand nous savons qu'il est allé jusqu'à ce que nous appelons en langue arabe Sidrat al-Muntaha, le jujubier céleste, là où Jibril lui-même a dit « Ici s'arrête mon chemin, je ne peux pas poursuivre plus avec toi ». Jibril n'avait pas le droit de franchir cette barrière, ce cap, au risque de se retrouver foudroyé. Sauf que lui avait justement cette autorisation de pénétration de ce, en quelque sorte, de ce saint des saints, donc de cette dimension très très spéciale qui est celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que suite au hadith de l'Isra ou le Mi'raj, certains disent qu'il y a divergence, bien entendu, chez les savants musulmans. Certains disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Dieu directement, comme ce fut le cas avec Moïse alayhi salam. Certains disent même qu'il a vu Dieu là-bas. Maintenant, nous avons des textes qui donnent le kalam al-muhtamal, qui donnent lieu à différentes interprétations. Mm. Il y a justement des versets qui indiquent que que nul n'a pu jouir d'une proximité telle que celle qu'a eue le messager de Dieu, alayhi salatu salam, avec Dieu durant justement cette ascension. Beaucoup de versets de Sourate Najm reviennent dessus. Wa najmi ida hawa ma dalla sahibukum wa ghawa wa ma yantiqu ani al hawa in huwa illa wahyun yuha. Selon là nous sommes dans des passages. Oui, nous sommes dans des passages que nous allons retrouver dans l'un des évangiles canoniques, là où il est fait allusion au paraclète, parce qu'il ne parle pas de son propre chef, ce n'est en fait qu'une inspiration ou quelque chose d'inspiré. Allamahu shadidul quwa du mirratin fastawa huwa bil ufuqi al-a'la thumma oui thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa uha ila 'abdihi ma uha. Donc là il y a eu un dialogue entre lui. Qaba qawsayn aw adna, il y a eu
les sept cieux puis les 8e et 9e stations qui sont
Sidrat al-Muntaha. Et là, donc, Dieu, justement, défend. Et il part, justement, « Inda Sidrat al-Muntaha, le jujubier céleste, inda hajnatul ma'wa, yarcha sidrata ma yarcha, ma zara al-basaru wa ma tagha, laqdra'a min ayati rabbihi al-kubra. »
Ma zara al-basaru wa ma...
Wa ma gawa. Ça veut dire que il y a eu une vision de fait, il y a eu une vision physique, c'est-à-dire que certains prennent ce verset comme argument pour dire que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a vu Dieu. Sauf que d'autres le contestent, attention, parce que ce sont ce sont des choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles vraiment on ne peut qu'émettre des hypothèses. Nous n'avons rien de fiable à ce sujet. Et les interprétations ou les exégèses qui peuvent être faites à ce sujet, sans كلن يؤخذ ويترك من قوله إلا صاحب هذا القبر كما dit, comme l'a si bien dit l'imam Malik. Donc tant que nous n'avons pas, vous savez, quand vous avez le Coran, vous faites l'exégèse d'un verset par un autre verset, quand les choses, quand le texte est clair et peut admettre cela. Généralement, oui. C'est le Coran yufassiru ba'dahu ba'dan. La première exégèse que nous faisons du Coran, c'est celle qui est faite par d'autres versets coraniques. Ensuite, vous avez des hadiths authentiques. Ensuite,
qui viennent compléter, pas expliquer.
Qui viennent clarifier, tout simplement. Qui viennent clarifier quelque chose. Mais nous n'avons pas toujours cela. Et nous avons, en termes d'exégèse, les avis aussi des premiers compagnons, des grands exégètes, qui peuvent être basés sur leur compréhension du texte, donc avec une bonne aptitude à comprendre le texte en langue arabe, ou bien par des traditions ou des informations, des enseignements qui leur ont été transmis par le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, tout simplement. Mais moi je suis d'avis, c'est moi qui pense cela, je pense que ce voyage nocturne a eu lieu, c'est un voyage physique et non virtuel, et même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant à sa place, c'est-à-dire sur son lit, a remarqué que la température du lit était au même stade que celle qu'il était au même stade qu'il ne l'avait laissé au moment du départ.
Combien de temps cela a-t-il pris comme temps?
Ça peut, vous savez, la distance parcourue devrait prendre l'équivalent peut-être de plusieurs milliers d'années. Si nous parlons de distance traversée et de vitesse en années-lumière, c'est-à-dire 297 000, je ne sais quoi, kilomètres secondes. Ce que je pense, c'est que à l'heure actuelle, cette hypothèse se plaide parfaitement par le biais de la physique théorique. Elle se plaide. C'est-à-dire que vous avez des données physiques qui peuvent plaider pour ce type de récit. Ce qui nous sort un peu de cette idée du virtuel pour aller vers un déplacement physique. C'est ce que je pense honnêtement. Maintenant, quand on dépasse cette polémique, était-ce un voyage virtuel ou physique, nous allons ensuite être plongés dans une multitude d'enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est sûr, et ce à quoi beaucoup, beaucoup de gens n'accordent pas d'importance, c'est que, mis à part le fait que pendant ce voyage, il y a eu la prescription de la prière
dans le ciel,
c'est le seul.
Pourquoi dans le ciel?
Vous savez, je ne sais pas pourquoi
mais
ça s'est fait dans le ciel.
Mais c'est la prière qui est Mi'raj ar-Ruh.
Oui, c'est parce que c'est ça, parce que c'est le culte le plus important.
Ça n'aurait pas pu être autrement, j'ai l'impression.
Oui, c'est le seul culte dont le musulman ne peut se défaire. Vous pouvez ne pas jeûner pour des raisons de santé. Vous pouvez ne pas aller au pèlerinage pour des raisons de santé ou d'ordre financier. Vous pouvez ne pas faire l'aumône parce que vous n'en avez pas les moyens. Mais quelle que serait votre situation, vous ne pouvez et vous ne pourrez jamais vous défaire de la prière, quitte à prier en clignant des yeux.
Réveillons-nous.
Même sans faire d'ablution, même sans réciter le Coran, vous allez juste vous retrouver dans une sorte de gestuelle comme ça, vous êtes dans l'obligation d'accomplir cette prière. 5 prières par jour. Mais attention, mis à part le fait qu'il y ait eu cette prescription de la prière dans les cieux, le reste, la partie la plus importante de cet épisode, qui est l'ascension.
Une partie eschatologique aussi ?
Il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect humain, l'aspect civique qui revient le plus souvent. C'est dans ce voyage nocturne que le messager de Dieu a vu un homme profitant à profusion des bienfaits du paradis. C'est quelqu'un qui a ôté de la voie publique ce qui pouvait nuire aux passants. Vous imaginez, avons dans ce voyage nocturne l'image d'un gros taureau qui sort d'un trou minuscule et qui essaye d'y revenir. Donc, qu'est-ce qui fait le voyage nocturne? C'est le fait de se diriger vers Dieu, d'être dans une sorte de monastère isolé des gens et en train de regarder le ciel et faire des incantations et des prières, ou est-ce le fait, ou est-ce le fait de vivre parmi les gens et de faire, de rayonner par son humanité?
C'est pour ça que je vous parlais d'un voyage, d'un cheminement spirituel, mais complètement connecté à la terre.
À la vie, à la vie de tous les jours. Vous savez que parmi les bienfaits ou parmi les ni'am, les meilleures choses que pourrait avoir le musulman au paradis, c'est comme le disent Al-Sunna ou Al-Jama'a. D'ailleurs, on en fait une prière. Allahumma rzuqna laddat al-nadari ila wajhik al-karim. Il paraît qu'un jour du vendredi, qui est une sorte de jour de marché, de grand marché, de souk, les gens iront à un endroit assigné à la chose, et puis là, Dieu leur dira, est-ce que vous êtes satisfait du paradis? Et oui, bien sûr, est-ce que vous ne voudriez pas que je vous offre ou que je vous accorde quelque chose qui est encore meilleur que ça? Et que pourrais-tu nous donner de plus? Parce que les gens sont tellement enchantés de ce qu'ils voient que, ma foi, on ne peut pas faire mieux. Il leur dit, vous donner, vous accorder cet insigne honneur que de regarder, de contempler mon visage, ma face. Ce hadith est rejeté par bon nombre d'écoles. Les ibadites, par exemple, vous diront, non, ce hadith, ça n'est pas possible. D'ailleurs, même quand dans ce fameux dialogue entre Moïse et Dieu, Seigneur, laisse-moi, donne-moi la possibilité de te voir. قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل لن تراني لن tu ne me verras point. لن زمخشري quand il était معتزلي disait, on l'a appelé, il disait لن الأبدية. On l'a même appelé لن زمخشري. Ça veut dire que ce morphème لن était un morphème qui s'employait dans la perpétuité. L'entarani. Innaka l'entarani. Tu ne me verras jamais. Alors que là, le verset veut dire tu ne me verras pas.
À ce moment précis.
À ce moment précis. Tu ne peux pas me voir. Tu n'as pas cette possibilité. Mais regarde
plutôt
le monde.
Mais il a vu un signe justement de
oui,
Dieu.
Oui, et quand il s'est manifesté au Mans, il le pulvérisa et fakharramour sa'iqa. Oui. Donc, vous savez, tout notre problème à l'heure actuelle est là. Au moment même, à chaque fois que nous avons quelque chose qui est en mesure de nous donner une multitude d'enseignements qui peuvent être très bénéfiques dans la vie de tous les jours, nous, les musulmans, nous coinçons ou nous calons sur des divergences, des polémiques d'ordre secondaire qui sont celles que nous venons de citer. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que j'aimerais bien qu'une fois que nous entrerons dans les différentes phases de ce voyage, nous allons le faire de manière, on va dire, même artistique, si vous le voulez. Mm-hmm. C'est-à-dire, laissons-nous aller à cela, essayons de nous ouvrir à tout ce qui pourrait nous être bénéfique, plutôt que de camper sur des positions stériles qui n'ont jamais rien apporté de bon à la communauté de l'islam.
Bien, merci à vous d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 6h et à 14h, donc pour continuer ce récit de l'Isra ou al-Mi'raj. Merci à vous, bonne matinée et bon début de semaine à tous. Thank you.